Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente.
Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur Sud Radio. Si vous voulez passer à l'antenne pendant cette prochaine heure et obtenir des réponses à vos questions sur votre situation présente et future, peu importe le domaine, eh bien c'est simple. Vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Notre médium et coach intuitif Alexandre Delavanne va vous donner son ressenti et ses précieux conseils. Bonjour Alexandre.
Bonjour Trina. Bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, merci.
Bon, tout à l'heure, on s'intéressera.
Vous aussi,
oui,
tout
ça
va.
Tout à l'heure, on s'intéressera au difficile chemin du pardon avant la rubrique de l'ange du jour. Et je vous invite à nous rejoindre sur le Facebook Live si vous voulez voir le beau t-shirt d'Alexandre.
Et le tatouage de Trina.
On démarre avec Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour Trina. Bonjour Alexandre Delavanne.
Bonjour.
Merci de me recevoir.
Merci à vous. Vous nous appelez d'où Marlène ?
Draguignan dans le Var.
D'accord. Alors, il y a des conflits avec les enfants de votre mari, c'est ça ?
Enfin, c'est pas vraiment ça. C'est mon mari, en fait, déjà, qui m'a... Enfin, je suis tout à fait en accord, mais qui m'a demandé aussi d'intervenir à l'antenne pour lui apporter de l'aide, en fait, et des conseils. On est ensemble depuis 10 ans, et lui, donc, il est séparé depuis 11 ans de la mère de ses deux filles. Mmh. Donc on était, enfin, on est en famille recomposée, mais ça a été très compliqué avec la maman des deux filles. Et donc moi, quand je les ai connues, la plus petite, elle ne parlait pas encore. Au départ, ça s'est très bien passé. Mmh. Et c'est une maman en fait qui veut ses enfants pour elle. Et elle a tout fait en fait. Donc au départ, elle avait la garde des enfants. Et elle a tout fait pour avoir ses filles. Donc, on a réussi à avoir la garde alternée après de nombreuses enquêtes, parce qu'elle l'a refusée. Donc, on a eu, au niveau judiciaire, des enquêtes sociales, psychologiques. On a réussi à avoir la garde alternée parce qu'il avait été démontré que la maman avait une relation toxique avec les enfants et que donc, il fallait que le papa il les ait autant pour pas que l'alliance des filles se retourne contre le papa. Donc, on a eu la garde alternée pendant plusieurs années, 4 ans, moi. Mm-hmm. Et là, il y a 2 ans, le 22 octobre 2020, la plus grande avait donc 14 ans, donc en début de crise d'adolescence, en fait. Premier petit copain et mauvaise fréquentation. Donc, quand son papa l'a su, eh bien, il lui a interdit, en fait, et elle a été punie de téléphone portable. Mm-hmm. Et elle a disjoncté, elle a pas apprécié du tout en fait cette autorité et ce cadrage, et du coup elle en a profité. Elle a appelé sa maman, donc elle était chez nous à ce moment-là. Elle a appelé son nouveau beau-père qui est policier dans la brigade des mineurs, et j'ai la brigade des mineurs, donc son papa travaillait, j'ai la brigade des mineurs qui est intervenue à la maison, qui l'a emmenée, et depuis on l'a plus revue. Donc ensuite, ben la petite aussi est retournée donc chez sa maman le lendemain, parce que c'était pendant des vacances scolaires. Et depuis, ben il y a eu jugement, encore donc enquête par une psychologue qui a bien démontré que la mère était toxique.
D'accord.
Donc ça s'appelle le syndrome d'aliénation parentale, c'est quand voilà. Et malgré cela, eh bien on est passé devant donc le tribunal. Il peut pas revoir. Enfin, il a eu l'autorisation de voir ses filles uniquement le samedi une fois sur deux de 10h à 17h pour l'instant. Moi, on m'a refusé de. On m'a dans le jugement, j'interviens et il demandait à ce que je n'interfère pas dans la relation.
Ah bon, d'accord.
Alors on ne m'a jamais entendu. Mais ils se sont basés en fait sur les dires de la maman et des enfants. Donc des enfants qui sont fortement en fait manipulés par la maman, hein. Le cerveau c'est de la pâte à modeler.
Mais le papa il a été entendu quand même.
Le papa était entendu, hein, et le rapport a bien dit que la mère était toxique, quoi. Mm-hmm. Et malgré le rapport de la psychologue, donc qui a vu la mère, les enfants, le papa, sauf moi, il est passé aussi devant. Il a demandé donc à être reçu par le juge des enfants. Le juge des enfants a dit que ce n'était pas grave, que si un enfant était coupé de son papa, que ça ne mettait pas en péril la santé de l'enfant. Donc ça, je trouve ça scandaleux. Donc c'est un jeune juge des enfants, je pense, qui n'a aucune connaissance vraiment de la. Bon. Et du coup, la première fois qu'il les a revus, ça s'est plus ou moins bien passé. C'était très froid, donc ça faisait 16 mois qu'il les avait pas revus. Et après, par contre, les autres fois, ça a dérapé jusqu'à terminer par des insultes. La plus grande lui a dit « fils de pute », alors qu'elle n'avait jamais, jamais parlé comme ça. La plus petite est très froide et refusait même de lui parler et dans l'ignorance. Et du coup, il arrive plus parce qu'il sent que quand il va les chercher, c'est contre leur désir. Mmh. Une fois, ils ont dit bah non, on préfère rester chez maman, et elles sont reparties au bout de 5 minutes. Donc, c'est compliqué. Et en fait, on se demande comment ça va se dérouler. En fait, si un jour elles vont revenir, si elles vont revenir parce qu'elles aiment leur papa et qu'elles nous aiment, ou est-ce que elles vont faire comme leur maman qui a renié son père.
Donc pour vous, elles sont clairement manipulées par la mère. Quel âge elles ont?
La plus grande va avoir 16 ans là, fin du mois de juin. D'accord. Et la seconde a eu 12 ans.
D'accord. Et là, vous ne les avez pas vues depuis combien de temps?
Alors, moi, je ne les ai pas vus depuis 2 ans. Et mon mari, là, ça va faire un mois, en fait, qu'il ne les a pas vus. Mais finalement, 2 ans, parce que les seules fois, il les a vus quelques heures. Il les a vus 6 heures en 2 ans, là.
D'accord. C'est une histoire compliquée, triste, très difficile. Alexandre, selon vous, est-ce que ça peut s'arranger plus tard?
Alors, oui, ça peut s'arranger, effectivement, pour moi, si vous voulez. Alors, il y a une histoire familiale, émotionnelle, ou qui est difficilement, pour l'instant, gérable, parce que ça soit du côté du papa ou de la maman, malheureusement, et c'est aussi la raison pour laquelle ils se sont séparés, mais il y a un problème d'entente, et ça a un impact négatif sur les enfants. Donc, il y a un problème au niveau émotionnel qu'on n'arrive pas à résoudre, et qui un blocage et qui bloque à ce niveau-là. Puis, il y a un point de vue juridique qui, effectivement, je ne suis pas là pour donner un avis sur la justice, mais qui a besoin peut-être d'être revu, d'être à nouveau examiné, rejugé ou autre.
Voilà, tout à fait. Il a été mis en garde à vue, il a été menotté et tout ça. On a écrit donc au procureur de la République, on a écrit après au-dessus, j'ai écrit au ministre de la Justice, et en fait tous ils se couvrent et ils disent que non, tout a été normal, alors qu'il a été transporté en fourgon cellulaire, pire qu'un vrai criminel.
C'est pour ça, Marlène, moi mon but c'est pas de parler de la justice et de juger la justice, mais en tous les cas, effectivement, si vous voulez, il y a quelque chose de lourd sur ce dossier et qui a des impacts aussi, et ne serait-ce que pour le regard des enfants, avoir un parent qui soit aussi sévèrement jugé ou autre, ou traité de cette manière-là, c'est peut-être aussi difficile pour eux, et autant dans l'acceptation et puis aussi dans la réflexion, dans l'analyse de tout ça. Donc, ce que je ressens, c'est ce besoin de ce temps nécessaire pour que les enfants, eux, puissent sortir d'un schéma familial compliqué et lourd qui n'arrive pas à se résoudre aujourd'hui, et qu'eux-mêmes fassent leur propre analyse et de prendre conscience du parent qu'ils ont, autant de la maman que du papa. Et ça, aujourd'hui, effectivement, les filles ont de l'influence du côté de la maman, alors peut-être parce qu'il y a des intérêts particuliers qu'elles peuvent avoir avec la maman qu'elles n'ont pas avec le papa, et vice-versa. Donc, il y a quelque chose dans ce sens-là. Mais ce que je ressens, c'est que oui, ça s'améliorera aujourd'hui, tant que la procédure sera compliquée et qu'il n'y aura pas eu, on va dire, quelque chose d'équitable, eh bien, on reste campé sur des positionnements, et les enfants ont cette influence, ont reçu cette influence-là, donc c'est difficile. Donc, c'est difficile de pas en vouloir à ces enfants, mais ce ne sont pas eux les responsables, bien entendu. Et il faut laisser ce temps. Et j'aurais tendance à dire que votre mari a besoin de prendre du recul, même si ça fait mal, même si aujourd'hui c'est un sentiment d'injustice et de punition, mais de prendre ce temps nécessaire de recul pour après. Pour moi, il y aura une procédure à nouveau qui va se réenclencher sous une période à peu près d'un an et demi. Et vis-à-vis de la relation relation avec les enfants, avec les filles, eh bien, ça devrait se tempérer, ça devrait se calmer au fil du temps, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc, quoi vous dire ? Du changement, pour l'instant, je ne le vois pas. Sincèrement, je vois pas trop de changement. Il faut patienter un petit peu. Et j'ai l'impression que sous une période d'un an, un an et demi, là, les choses se feront. Et le papa, il est bien sûr dans sa responsabilité d'homme engagé, et c'est très bien de ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Donc qu'il continue comme ça, et même si c'est douloureux, même si c'est difficile, mais moi, pour moi, à un moment donné, il obtiendra gain de cause, et en tous les cas, la vérité se fera dessus.
Parce que dans un an et demi, elle sera majeure, la plus grande. Donc, enfin, il ne peut plus avoir de justice, là. Elle revient.
Oui, mais là, je parle de la relation. Si vous voulez, ouais, je parle de la relation. Après, la justice, ça, c'est à eux à faire leur travail. Mmh. Et moi, c'est, je parle de la relation. Parce qu'effectivement, au niveau côté justice, il y a des choses qui mériteraient d'être revues, mais qui sont un peu compliquées. Mmh. Moi, je parle plus de la relation familiale, oui, enfant-parent, et où ça s'améliore un peu dans ce sens-là.
En fait, il a l'impression de les abandonner sans rien faire. Mais je lui dis que c'est pas le cas. Enfin, il a tout fait. Franchement, il a tout fait.
Mmh. Après, je pense que c'est normal qu'il ressente une culpabilité. Vu la situation, mais évidemment s'il a tout fait, faut pas qu'il se sente responsable, même si c'est facile à dire d'un autre côté.
C'est sûr.
En tout cas, pour l'instant, il ne voit pas ses filles, donc j'imagine que la fête des pères dimanche va être difficile. Alors, c'est pas grand chose, mais on va vous faire un cadeau, Marlène.
C'est gentil.
On va vous offrir une montre Icewatch, c'est la montre Ice Solar Power, voilà, une montre éco-responsable, donc voilà, je suis ravie de vous faire ce cadeau, au nom de toute l'équipe de Sud Radio.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Marlène. À bientôt, bon courage.
À bientôt, au revoir.
Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Dans quelques minutes, notre sujet du jour sera consacré au chemin du pardon et on accueillera Laurence. Elle est en couple depuis 20 ans et elle a l'impression qu'elle se trouve à un tournant de sa vie. En plus, sur la même longueur d'onde que son conjoint, c'est terminé. Elle envisage même la séparation, mais elle pense que ça serait dramatique pour leurs enfants. On en parle dans un instant.
Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour.
Alexandre, aujourd'hui, vous vouliez nous parler du difficile chemin du pardon.
Et oui, vous savez que quand même, certains traumatismes nous rendent esclaves de nos émotions. Ça nous condamne parfois aussi à être figés, prisonniers de notre culpabilité, de notre rancœur aussi, et parfois, et certaines situations, de notre honte
aussi.
C'est
négatif, tout ça.
Tout ça, c'est négatif. Alors, le processus du pardon permet de mettre des mots sur la souffrance pour mieux accepter l'événement traumatique et qui va progressivement se réparer et vous libérer de tout ce côté-là. Alors, c'est une forme de détachement, de renoncement à l'image que l'on s'était créée et aux défenses aussi qu'on utilisait quand on était dans cette action-là. Mais pardonner, c'est aussi accepter que le passé ne puisse pas être modifié. C'est ça qui est difficile.
Oui, c'est pas mal cette phrase-là.
Voilà, même s'il n'est pas question de justification sur les événements qui ont été vécus. Mais c'est pas évident d'accepter d'en arriver là. Pardonner, c'est aussi stopper la colère et la haine, c'est de sortir du désespoir, c'est de faire le deuil et de ne plus condamner. Est-ce que vous vous êtes retrouvé face à une situation où il fallait pardonner, même si ça a été difficile pour vous, voire au début impossible?
Bon, alors on parle vrai sur Sud Radio.
Mais bien sûr.
Je suis extrêmement rancunière. Le pardon, c'est très difficile pour moi.
C'est ça.
Oui.
C'est
ça. Mais évidemment, quand on me fait quelque chose de mal,
oui.
Si c'est des broutilles, bien sûr que non, je suis humaine quand même.
Et effectivement, et la rancune ne nous amène pas vers cette notion de pardon. Alors, le pardon ne doit pas être aussi obligatoire parce que, enfin, ça c'est mon avis personnel, mais il y a quand même des situations.
J'allais vous demander, est-ce qu'on peut tout pardonner
quand il s'agit d'un viol ou autre. Après, chacun a sa perception des choses. Mais il ne doit pas être toujours obligatoire. Il n'est pas non plus un gage de guérison. Mais ça passe par plusieurs étapes de prise de conscience. Alors la première, c'est évidemment, c'est celle d'arrêter avec la souffrance. Parce que on n'en peut plus. C'est aussi de reconnaître l'existence du préjudice. C'est de donner libre cours à sa colère, et à sa colère et aussi à sa rancune. C'est de cesser de se croire responsable. Se blâmer, c'est détruire un peu l'amour de soi et l'estime de soi aussi. C'est de laisser du temps autant. Le pardon doit s'imposer de lui-même par un long processus. Ce n'est pas sur un coup de tête qu'on peut se débarrasser de passer de quelque chose.
Ça demande du temps,
Exactement. C'est d'être plus fort. Hein. La disparition de la colère et de l'amertume est le signe que le pardon et libérateur. C'est aussi de se pardonner à soi-même, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus important.
Et je crois que c'est
le plus
même.
Difficile, et c'est les premières étapes. Alors, c'est sur des petites choses, parfois, où on s'est mal jugé, on s'est fait du mal, ou on s'est mal apprécié. Eh bien, c'est d'être déjà dans cette petite démarche de ce pardon de soi-même, et ça nous permet, après, d'accéder à un plus grand pardon, et sur des événements qu'on a pu vivre, ou qu'on peut subir. Mais, comme j'ai dit, le pardon n'est pas obligatoire non plus.
Et je rebondis sur quelque chose d'assez intéressant que vous avez dit. Le pardon n'est pas forcément synonyme de guérison.
Oui. Ça dépend de ce qu'on peut vivre comme traumatisme, mais il y a des choses qui nous restent et qui nous resteront toujours suite à, je sais pas, un événement, un accident, une rupture ou autre. On peut guérir d'une manière à avancer dans notre vie autrement et différemment et à ne pas recommencer les mêmes erreurs, mais la souffrance qu'on a vécue ce qu'on a vécu de manière émotionnelle, ça pour les guérir, ça reste toujours.
Mais ça aide à avancer.
Bien sûr, ça nous libère, ça nous permet de se sentir plus en phase avec soi-même et puis surtout de ne pas porter sur soi des charges de responsabilité et puis des choses qui polluent et qui nous entêtent l'esprit.
C'est très intéressant en tout cas comme sujet. Laurence nous a rejoint. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour.
Bienvenue
bonjour.
Laurence.
Bonjour à tous les deux, merci.
Vous nous appelez d'où ?
Du Lot.
D'accord. Alors, vous vous posez des questions sur l'avenir de votre couple.
Voilà, c'est ça. En fait, je suis en couple depuis 20 ans avec mon conjoint. Mm-hmm. Nous avons deux adorables enfants. Et en fait, ça fait quelques temps que je me pose des questions sur mes sentiments. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'ai perdu ma maman brutalement. Et j'ai l'impression que il y a des choses qui s'éclaircissent un peu. Je vois la vie différemment. J'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Et j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Et en fait, ma question, c'est de savoir est-ce que je reste avec lui pour pas détruire en fait cette belle famille est-ce que j'ai plus de sentiments pour lui ou est-ce que j'en ai encore, mais en fait il faut j'arrive pas à trouver toutes ces questions à mes réponses.
Et ça, c'est l'événement dramatique que vous avez vécu avec la perte de votre maman? Non.
Non,
c'était déjà avant.
Oui, c'était déjà un peu latent depuis quelques années. Et là, ça a effectivement un petit peu accéléré les choses. Mais j'arrive vraiment pas à trouver ces questions. J'arrive pas.
Et lui, qu'est-ce qu'il pense de votre couple ?
Il me semble, mais c'est vrai, ça fait un petit moment qu'on communique plus. Mais il me semble qu'on en est peut-être au même stade. Voilà.
D'accord.
C'est vrai que c'est un sujet que j'ai du mal à aborder maintenant.
D'accord. Alexandre, selon vous, est-ce qu'il y a encore un avenir dans ce couple ?
Eh bien oui. Eh bien oui, Laurence, il y a de l'avenir. Voilà, peut-être que c'est surprenant.
Oui, on entend à sa voix.
Oui, il y a de l'avenir. Alors, effectivement, pour moi, vous êtes à la fin d'une échéance, à la fin d'un cycle de votre vie sentimentale. Mais parfois, la fin d'un cycle n'est pas forcément la fin de tout. Hein. C'est peut-être pour recommencer quelque chose de nouveau et d'entamer un autre mode de vie et avec un autre fonctionnement et peut-être aussi avec un autre mode de pensée. Alors, de ce que je ressens aujourd'hui pour vous, Laurent, c'est un peu de l'ennui. De l'ennui, c'est-à-dire que vous avez eu toutes ces dernières années des occupations, des activités qui étaient contraignantes, qui étaient routinières. Et aujourd'hui, même intellectuellement, vous vous ennuyez un petit peu et vous avez besoin de vivre autre chose et vous avez besoin de découvrir, vous avez besoin de curiosité, vous avez besoin de changement par rapport à ça. Et ça ne passe pas uniquement, ou ça ne doit pas se faire uniquement avec votre vie sentimentale, mais ça doit se faire aussi avec votre entourage. Parce que pour moi, il y a eu un peu d'abandon. C'est dans le sens où vous êtes un peu abandonné dans la notion de ce que, ou en tous les cas, des responsabilités et des charges que vous aviez dans votre quotidien. Et donc, du coup, vous êtes un peu abandonné. Et aujourd'hui, il y a une sonnette d'alarme qui est en train de dire « Reprends-toi et reprends ta vie en main et pense à toi ». Et vraiment, c'est dans cet état d'esprit-là que je vous ressens aujourd'hui. Mais c'est pas parce que vous êtes dans cette, je dirais, dans cette réflexion-là qu'il faut absolument montrer du doigt la personne que vous avez en face de vous. C'est vous qui êtes en train d'évoluer autrement. C'est vous qui êtes en train de changer. Et votre compagnon aussi. Votre compagnon, il est peut-être à la fin de quelque chose. Donc, pour moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que ne détruisez pas ce qui est en place aujourd'hui pour... vous savez, on sait très bien ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on reprend. Et parfois, on pense qu'ailleurs, c'est mieux. Et puis, pour en finir, le bonheur, il est à l'intérieur de nous et c'est à nous à le faire grandir. Et justement, travailler sur peut-être cette dynamique-là, de se dire, je vais être un petit peu égoïste, alors je vais me faire plaisir, je vais peut-être aller à la rencontre de nouvelles personnes qui vont m'apporter autre chose, de vivre, de vibrer autrement, de me mettre à des nouvelles activités. Et vous verrez que votre compagnon, lui, va bouger aussi. Et puis, à un moment donné, vous allez ensemble vous retrouver, vous réunir et puis se dire, pour en finir, la vie qu'on a aujourd'hui ne correspond plus. Et on part sur de nouvelles idées. Et de nouvelles idées, c'est peut-être pour renforcer ce lien ensemble, parce que sentiment, il y a encore dans votre vie. Je pense que même si vous vous agacez tous les deux, mais il y a encore une notion de sentiment. Donc, pour moi, il y a du potentiel et pour moi, ce n'est pas la fin.
Ben, c'est super. Après, je me retrouve complètement dans tout ce que vous dites, mais c'est vrai que je m'autorise effectivement à faire des choses pour moi, que j'aime, sans penser forcément à mes enfants, ma famille. Et le seul souci, c'est que j'ai l'impression, mais c'est peut-être mon interprétation, que mon conjoint met des freins à tout ça.
Oui. Il a peur, parce qu'il a peur.
Il a peur, comme si vraiment, je le ressens à chaque fois.
Mais exactement, c'est pour ça que surtout, ne vous mettez pas des barrières et vivez ce que vous avez à vivre, parce qu'à un moment donné, il va comprendre que pour en finir, vous avez peut-être raison et qu'il faut qu'il lâche avec tous ses freins et emmenez-le vous balader en gondole à Venise.
Voilà. Et nous aussi, on viendra.
Oui.
Avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir.
Merci Laurence d'avoir été avec nous.
À bientôt. Pour ces éclaircissements. Merci beaucoup.
Merci
à
Laurence.
Bientôt. Au revoir. Merci.
Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. On va accueillir Dominique. Elle était en couple avec le père de ses enfants et elle a entretenu une relation cachée avec son voisin qui était lui aussi en couple. Dominique et cet homme ont quitté leurs conjoints respectifs, mais le Covid et le confinement sont arrivés et ils se sont éloignés jusqu'à ce que Dominique découvre qu'en fait cet homme s'était remis avec sa compagne. On en parle dans un instant.
Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval.
De retour dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre pour poser vos questions, Alexandre. 0826
300 300. On est bien dans C'est votre avenir, c'est ça?
On est bien dans C'est votre avenir. On est bien sur Sud Radio.
Oui, oui.
Vous êtes bien Alexandre Delaval.
Ah oui, je crois bien. Oui. Non, je ne sais pas si je m'étais trompé d'émission ou pas.
Non, restez avec nous.
Ah bon, d'accord, ok.
On retrouve Dominique. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour.
Bienvenue Dominique, vous nous appelez d'où?
De Toulouse.
D'accord. Alors, donc vous étiez en couple et vous avez eu une relation cachée avec votre voisin.
C'est ça.
Racontez-nous.
Alors, et ça dure toujours. Ça fait 10 ans que nous nous fréquentons, mais toujours de manière cachée. Mm-hmm. Puisque, comme vous le disiez, il y a eu le Covid, mais ce n'était pas que ça. C'est qu'il est tombé malade et il voulait se soigner tout seul.
Mais rappelez-nous peut-être déjà, dès le départ, comment ça s'est passé entre vous? Comment ça s'est né, votre relation?
En fait, oui, comme c'était mon voisin et que moi, dans mon couple, ça faisait déjà un moment que je ne me sentais pas très, très à l'aise. Donc, j'étais vulnérable. Donc, il est apparu, il a commencé à me charmer. Bon, j'ai succombé et ça fait 10 ans que ça dure. Donc, c'est resté caché. Ça allait toujours puisqu'on se fréquente toujours actuellement. Sauf que... je me suis séparée. Là, ça fait 2 ans que je suis dans ma maison, tranquille. Lui, il s'était séparé avant. Enfin, il avait déménagé. Elle avait pas suivi. Elle avait gardé son appartement. Donc, ils étaient plus ensemble. Mais je crois qu'ils se fréquentaient quand même. Mais bon, à un moment, ils étaient plus ensemble, quoi, officiellement.
D'accord.
Donc, ça a toujours été caché. Et comme je vous dis, encore maintenant. Sauf que dernièrement, c'est vraiment une relation tumultueuse. On s'est disputé pour la énième fois. Et là, je me suis dit, la lassitude commençait à apparaître quand même chez moi parce que il ne veut jamais s'impliquer, il ne veut jamais rien faire, parce que j'ai appris entre-temps en 2021, à la énième dispute, il m'a convoqué finalement, presque officiellement, il m'a dit je vais t'expliquer, et il m'a avoué que, en fait, non seulement ils étaient ensemble, mais qu'ils avaient en plus acheté un bien ensemble.
Ah.
Donc ça m'a anéanti. Mmh. Et malgré tout, la façon dont il a amené, la façon dont il m'a expliqué les choses, j'ai accepté, puis par amour, parce que je l'aime, et puis voilà quoi. Donc j'ai accepté, on a continué bon an, mal an, mais à chaque fois, comme par hasard, quand on prévoit un truc à l'avance, ou qu'il me dit là j'ai posé des jours pour qu'on se voit, là tiens on va se passer une nuit, comme par hasard au dernier moment il a un empêchement, ou il est malade, ou bon. Donc il y a, je vous dis, ça date de 15 ou 3 semaines, j'ai mis le holà et je lui dis tout simplement, après un échange encore au téléphone tumultueux, un peu assez en colère, j'ai dit bon écoute, je lui ai dit on sera plus heureux l'un sans l'autre, on se fait du mal et puis voilà quoi.
Donc vous l'avez quitté?
Ben oui, je pensais, et après j'ajoute, je pensais, sauf que c'est toujours lui qui revient à la charge en m'envoyant des petits ça va, des coucou, comment ça va, tu me manques, enfin des trucs comme ça. Donc pendant un moment je réponds pas, puis finalement je finis par craquer, il dit oui ça va mais c'est tout, je développe plus parce que ça ne sert à rien. Il a toujours raison, il dit que c'est toujours lui qui fait des efforts, que moi j'en ai jamais fait, en disant, alors que je pense que oui, en supportant tout ce qu'il m'a fait supporter et avaler surtout. Donc voilà, et là je me demandais si j'avais bien fait, là encore, vous voyez, avant que vous m'appeliez, il m'a envoyé un message en disant, bon maintenant je te comprends, je te dérangerai plus, bref, voilà, je m'excuse, je te dérangerai plus, voilà.
D'accord.
Ça date d'il y a un quart d'heure.
Est-ce que vous ressentez une dépendance affective pour
lui?
Ah oui,
oui. Totalement, parce que je sens, mon instinct me dit qu'en même temps c'est une très très jolie histoire d'amour, et en même temps je me dis est-ce qu'il m'a pas manipulé pendant 10 ans, puisque il me dit qu'il a jamais connu quelqu'un comme moi, qu'il m'aime, que c'est le seul rayon de soleil dans sa vie, c'est moi, qu'il n'y a plus rien avec elle, ils sont en coloc, que je peux pas comprendre parce que il y a des enjeux, enfin voilà.
Mais ils ont quand même acheté ensemble.
Oui, donc quand ils étaient séparés, on se demande pourquoi il a acheté alors qu'on se connaissait déjà.
Alors, Alexandre,
oui.
Est-ce que vous êtes confiant quand même sur cette relation à l'avenir?
La question, c'est bien si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, c'est ça, hein?
Oui, aussi, mais oui, non, en plus, à chaque séparation, je me dis, est-ce que ça va lui faire un électrochoc? Est-ce qu'il va se dire, il va réfléchir, il va se dire, non, là, je fais une bêtise, c'est elle que j'aime, je vais faire en sorte de régler tous mes problèmes, parce qu'il en a familiaux avec son fils.
On sent la dépendance affective, Alexandre.
Effectivement. Et alors, si vous voulez, moi, vraiment, Dominique, ce que je ressens, c'est que vous avez une bonne approche et une bonne analyse de votre relation, et depuis toutes ces années, ça vous a permis peut-être de pouvoir réfléchir et de pouvoir analyser tout ça. Et donc, effectivement, hein, pour moi, c'est un homme qui est un petit peu prisonnier de son existence et à la fois inconsciemment, parce que je sens que c'est plutôt inconscient, mais il vous manipule. Et donc, parce qu'il est attaché à vous, parce qu'il a des sentiments, parce qu'il ne veut pas vous perdre, mais à la fois, c'est quelqu'un qui vit deux histoires comme ça, amoureuses, ça peut lui convenir et c'est le fonctionnement.
Ah bah il y trouve son compte, hein,
voilà,
de toute
façon. Voilà, il y trouve son
compte,
clair. Et c'est dans le fonctionnement dans lequel lui, il semble vouloir rester, même s'il vous laisse des fois des bouffées d'espoir ou des. Je ne veux pas dire qu'il tend la carotte, mais un petit peu dans ce sens-là. Pour moi, je ne sens pas qu'il y a une possibilité de grande réalisation sur le futur. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas à votre première rupture ou prise de recul, et même si vous êtes amené à revenir ou il y aura un retour, mais à la fois, par exemple, sur le message qu'il a eu là précédemment, il a une prise de conscience qu'effectivement, il ne peut pas apporter ce qu'il pourrait apporter et qu'il doit vous libérer, parce qu'en fait, c'est une forme de prise d'otage un petit peu. Et d'un sentiment d'être enfermé dans quelque chose sur lequel vous n'arrivez plus à trouver votre place et aussi votre positionnement pour redémarrer sur autre chose. Alors, oui, il y aura encore des capacités où il y aura encore des possibilités à vivre des choses ensemble, mais vous êtes quand même sur la fin d'une relation. Vous êtes, il faut juste essayer d'être sur une approche à vous désintoxiquer de cette histoire, parce que voilà, c'est comme une drogue, hein, il y a quelque chose qui est là. Et puis surtout, peut-être d'être plus sévère et d'être plus rigoureuse, ou en tout cas sévère,
radicale,
voilà, par rapport à cette histoire, et de dire, mais écoute, on pourra continuer que si tu auras fait des choix dans ta vie, et voilà. Donc pour moi, je vous dis pas ça pour que vous le fassiez de cette manière-là, mais de ce que je ressens. Et vous serez amené à avoir une autre réalisation affective dans une période d'un an, pas avant. Et c'est pour ça que pendant un an, je sens que les choses sont encore à demi-teinte, et vous revenez, vous repartez, et attention à votre mental, attention à votre esprit, et puis surtout, pensez à vous faire du bien.
Merci en tout cas Dominique d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Alexandre, on passe maintenant à l'ange du jour avec cette jolie musique.
Et
quel
oui.
ange on célèbre le 14 juin ?
Eh bien, c'est l'ange du jour. Voilà.
C'est toujours surprenant.
Voilà, exactement. Il est symbole de protection et cet ange est rattaché à l'élément terre et à la couleur argent. Alors, en l'invoquant aujourd'hui, il vous aide à faciliter l'interprétation de vos rêves et avoir aussi avoir accès à votre inconscient pour développer votre intuition. Aya, ange de chance pour les taureaux, né entre le 16 et le 20 mai, non pas le 21.
Oui, on accueille Evelyne. Bonjour Evelyne.
Je vous rappelle que le 21, c'est votre anniversaire. C'est
oui.
Ça. Bonjour Evelyne.
Bienvenue.
Bonjour. Bonjour et merci de me prendre à l'antenne.
Merci à vous. Alors, vous avez décidé de vendre votre hôtel-restaurant ?
Oui, ça y est, c'est fait. J'ai vendu. C'est vrai que c'est un établissement que j'ai tenu pendant 20 ans, qui m'a pris beaucoup d'énergie pendant toute cette période. Donc, voilà. Donc, je me retrouve effectivement à avoir vendu en connaissance de cause. Je n'ai pas vendu en étant obligée de le faire.
D'accord.
Et voilà, je suis un petit peu devant le néant parce que quand vous avez une entreprise, eh bien, vous êtes entouré, tout le monde est là. Et puis après, quand vous n'êtes plus dedans, eh bien, évidemment, vous n'avez plus personne forcément. Et puis comme vous avez travaillé pendant 20 ans, ben, vous n'avez pas eu le temps de créer des liens. Voilà. Donc ma question était, parce que je suis un peu de confrontée un petit peu au néant en ayant un petit peu ma vie derrière moi avec cet établissement. Donc, voilà, quelles étaient peut-être les orientations que je devais prendre maintenant pour aller de l'avant.
Vous ne voulez plus rester dans le même secteur ?
Non, pardon ?
Vous ne voulez plus rester dans le même secteur ?
Non, je ne veux plus rester dans le même secteur. Je ne veux même plus peut-être créer d'entreprise parce que c'est trop compliqué.
Pourquoi plus le même secteur ?
Plus le même secteur parce que c'est trop compliqué maintenant. Et j'étais dans un secteur assez, je dirais, énergivore, dans le sens où, le secteur touristique, on a affaire aux clients, on a affaire aux uns, aux autres. Et je ne me sens plus d'avoir des relations de ce type avec ce type de clients. Enfin, vous voyez, c'est... Donc, non, ce secteur, je l'ai pratiqué pendant 20 ans et j'ai fait des bonnes choses, je ne regrette pas, j'ai mené à bien mon entreprise, j'ai aidé des gens, mais maintenant, non, je ne veux plus être dans ce secteur.
Est-ce qu'il y a un secteur qui vous intéresse ?
Mais écoutez, non, je suis un petit peu dans le flou, c'est vrai que j'ai la capacité de faire beaucoup de choses, donc ce n'est pas évident de savoir, de m'orienter vers quelque chose précisément. Donc, voilà, c'est pour ça que je viens un petit peu vers Alexandre pour savoir s'il a des choses qu'il pourrait me dire.
Alexandre ?
Oui. Alors, pour moi, effectivement, Evelyne, vous êtes dans une période de votre vie où il y a cette envie de transformation, de changement et puis aussi d'un ailleurs. Vraiment, c'est comme si vous deviez vous autoriser une période de transition pour peut-être voyager, pour peut-être... alors, non pas pour voyager et faire comme beaucoup pourraient faire, aller se pavaner sur une plage aux Maldives, aux Seychelles ou autre. Non,
ouais,
je ne sens pas
ouais.
ça. Je sens plus voyager pour peut-être découvrir autre chose, c'est-à-dire d'aller dans les cultures, aller à la rencontre de certaines personnes ou d'observer des savoir-faire, ou, vous voyez, que ça soit en France ou ailleurs, hein, mais il y a quelque chose dans ce désir-là et dans cette envie-là. Donc, c'est comme si vous deviez vous accorder ce temps nécessaire pour vous amener à la réflexion, pour vous amener aussi à cette prise de décision. Et je vous dis ça parce que c'est en sortant de votre quotidien et de votre environnement dans lequel vous êtes, qu'il y a une idée de projet professionnel qui va venir à vous et qui va vous donner cette niaque, ou en tous les cas cette envie de continuer sur autre chose. Après, on dirait qu'il y a chez vous ce côté quand même de don de soi, ou de bienveillance, ou du service à la personne, du côté humain qui ressort, et notamment par rapport à votre métier. Voilà. Et ça restera en vous. Mais il y a un côté un peu artisan aussi qui semble ressortir. Donc, quand vous disiez que vous ne vouliez plus monter d'entreprise, oui, je l'entends, parce que en fait, c'est la surcharge administrative qui vous paraît compliquée aujourd'hui. Mais vous resterez pour moi dans un statut indépendant, autonome et un peu votre propre artisan, comme si à la fois vous étiez en train de fabriquer quelque chose ou de créer quelque chose, et qui est pour le bien des autres. Vous voyez, c'est comme si il y avait quelque chose qui est peut-être qui tourne autour du bien-être, autour de la décoration, de l'art de la table, ou des choses qui peuvent, mais qui apportent une joie, qui apportent un équilibre, et on dirait que vous-même vous allez créer cette structure, même si c'est une toute petite structure, et même si vous allez peut-être travailler de chez vous, et ça peut après avoir des impacts commerciaux, de vente ou de choses comme ça, mais pour moi il y a quelque chose dans ce sens-là qui se fera, et à la suite de ce temps nécessaire qui mérite à peu près presque deux petites années de temps de réflexion, de aussi de vous récupérer, parce que vous avez toutes ces années de travail qui sont là,
et
vous
êtes,
voilà, et je vous sens extrêmement fatigué, pas forcément avec des problèmes de santé, mais tout simplement au niveau énergie, de pouvoir reprendre, et vous verrez qu'à partir de là, vous repartirez sur de nouveaux projets, et ça va aussi bien fonctionner que ça a pu fonctionner pour vous auparavant
et
avec l'ancienne entreprise.
Les voyages, donc.
Voilà, on se balade.
Bon, c'est bien. Pensez à vous, Yveline. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est Votre Avenir, que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Nathalie, qui voulait revenir sur notre sujet consacré au message de l'univers. Je crois que c'était la semaine dernière, Alexandre. Elle nous dit: quand on s'adresse à l'univers, doit-on verbaliser à voix haute ou dans sa tête? Et doit-on inclure ses protecteurs en même temps, donc ses guides, ou est-ce différent?
Alors, oui, c'est plutôt préférable de verbaliser à voix haute. Alors, bon, s'il n'y a pas de personne autour de vous, ça va. S'il y a du monde, ça va paraître un peu bizarre. Mais pourquoi? Parce que les mots, quand on l'exprime oralement, ce sont des vibrations, ce sont des sons, et ça monte. Et sur le plan vibratoire, c'est de l'énergie, hein, tout ça. Donc, ça a une résonance. Donc, et bien sûr qu'il est plutôt préférable de le faire à voix haute qu'à voix basse. Et comme dans les religions, les messes, souvent, elles se font à voix haute, et voilà. Donc, ce côté-là. Et la deuxième question, pardonnez-moi.
Et donc, est-ce qu'on doit inclure ses protecteurs, ses guides en même temps?
Ah. Oui, alors c'est deux choses différentes, hein. C'est-à-dire que l'un, on est plus sur une notion de loi de l'attraction, hein, et puis l'autre, on est plus sur le côté très spirituel, un peu ésotérique ou autre. Donc oui, on peut le faire, mais il faut pas s'en remettre qu'à ses guides, hein, parce que parfois on met toute la responsabilité sur nos guides, et puis quand ça marche pas, c'est la faute d'eux, vous voyez. Comme moi, si aujourd'hui mon guide au supérieur, je devais l'engueuler. Non.
Allez,
pardonnez.
Oui. Venez nous rejoindre sur Sud Radio, 0826 300 300. On revient dans quelques minutes.
Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan.
Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Alexandre, quel est le numéro du standard?
Le 0826 300 300.
Et avant de retrouver l'équipe des Vraies Voix, on accueille Virginie. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Bienvenue Virginie. On vous entend.
D'accord.
Vous nous appelez d'où?
Alors, je vous appelle du sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône, précisément.
D'accord. Et vous faites partie du personnel soignant qui a été suspendu pour refus de vaccination, donc?
Tout à fait.
Expliquez-nous.
Alors en fait, j'ai subi de plein fouet l'obligation vaccinale lorsqu'elle a été imposée aux soignants en septembre. Mmh. Donc, travaillant dans un service assez difficile au niveau mental, puisqu'on a dû intervenir sans protection, sans masque, oui. Sans... J'ai sombré à ce moment-là dans un mal-être, dans une grosse fatigue, on va dire. Mm-hmm. Donc, suite à cela, et qu'arrivait presque en même temps de l'obligation vaccinale, je me suis mise en arrêt maladie parce que j'étais vraiment très épuisée.
D'accord.
Et donc, peu de temps après, j'ai été suspendue, sans salaire. Voilà, ça a été une véritable violence. Pour moi et je suis travailleuse sociale. Mmh. Et donc j'avais à ce moment-là donc peu après remis en question ma profession, c'est-à-dire j'étais tellement mal psychologiquement qu'en fait j'en étais venue au point de me dire qu'est-ce que je vais faire professionnellement.
Parce que vous ne vouliez plus faire ce métier-là à cause de tout ça.
À cause de tout ça, oui. Et puis parce que voilà, j'ai travaillé très longtemps dans le milieu hospitalier, et pour moi, ça a été comme une perte de repères assez difficile.
Parce que justement, en tant que personnel soignant, comment on vit c'est très violent, bien évidemment, comme vous le dites, mais le fait d'avoir été au front au départ sans masque, sans protection, et de se retrouver suspendu sans salaire, comment on le vit au quotidien?
En fait, on vit au jour le jour, ne sachant pas quelle décision sera prise par la hiérarchie. Bien souvent, la communication est complètement coupée avec la hiérarchie, justement.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a refusé cette obligation vaccinale, on est considéré comme des invisibles, enfin, des parias quelque part. Et voilà.
Donc aujourd'hui, vous voulez vous reconvertir dans quoi ?
Et aujourd'hui, donc, j'ai à cœur de retrouver un travail, retrouver un emploi de travailleur social, mm-hmm. assistant social précisément. Et donc, j'ai commencé à postuler. Bon, il m'a fallu du temps quand même pour digérer un petit peu tout ce qui nous est arrivé. Et là, je suis un peu dans le doute. C'est-à-dire que je me dis, si je trouve un autre emploi, est-ce que l'obligation vaccinale va pas à nouveau retomber sur le lieu où je serai. Mmh. Et également, j'ai du mal à reprendre, on va dire, à me repositionner sur un poste dans une autre structure parce que, bon, il y a des différences d'exercice. Mmh. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça serait pas bien, justement, de faire une formation et de se lancer à son compte en tant que coach de vie?
D'accord.
Qui se rapproche beaucoup du métier.
En effet. Alors, on a énormément de témoignages de personnels soignants suspendus pour refus de vaccination. Je tiens à répéter et à souligner que chez Sud Radio, on ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut. Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez pour la suite pour Virginie ?
Alors, pour moi, effectivement, il y a une formation qui semble s'annoncer. J'ai un peu une hésitation sur le côté coach de vie parce que même si ça peut être une continuité du métier dans lequel vous étiez ou en tous les cas c'est assez complémentaire, mais je vous sens si vous voulez avoir des fragilités ou des difficultés dans la, on va dire pas dans la stabilité mais dans la régularité liée à cette activité, et donc peut-être qu'au début ça peut être bénéfique et puis par la suite à nouveau vous remettre, enfin vous mettre en doute les capacités de prolonger ou de suivre dans cette activité-là. Donc je sens vraiment que il faut peut-être vous faire aider peut-être au travers d'un organisme tel que Pôle emploi ou autre pour essayer de vous amener à une véritable orientation. Alors ça ne vous empêche pas de faire une formation en tant que coach mais j'ai l'impression que oui, pour le côté indépendant, parce que je vous sens sortir en fait du système de l'entreprise ou du fonctionnement de l'entreprise, quelle que soit l'entreprise. Donc, je vous sens plus avoir un statut indépendant et puis peut-être à faire peut-être du soin, mais c'est pas forcément du soin ça peut être par de la médecine alternative ou la médecine douce, ça peut être aussi de l'accompagnement un peu en coach de vie ou autre, mais ça ne s'arrêtera pas à une seule discipline. C'est comme s'il y avait plusieurs disciplines qui pouvaient se rajouter
et
se compléter, bien entendu. Donc, ça va prendre du temps et c'est pour ça que ce qui est important, c'est de prévoir ce temps large avant de vous réinstaller dans quelque chose de nouveau et de repartir sur un meilleur équilibre. Et en attendant, essayez de justement d'organiser tous vos plans de formation pour vous laisser cette possibilité à cette nouvelle réussite.
Et on vous le souhaite en tout cas, Virginie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Alexandre. On se retrouve demain. On s'intéressera à l'amour spirituel. Bonsoir mon cher Philippe David.
C'est ce qu'on appelle l'amour platonique, c'est ça?
En effet, en un seul mot.
Oui, évidemment.
Quel est le programme des Aurais Bois? Vous alliez la faire, j'ai lu dans vos pensées.
Ah non, ça ne me va même pas effleurer l'esprit.
Oui, chez vous, bien sûr.
Laissez Platon tranquille.
Que comme chantait Brassens, à Sud Radio sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Voilà, quel est le programme?
Le menu des vraies voix. 17h30, une grande usine ouvre en France pour faire... Avec quoi? Côté d'Orléans, de la viande végétale.
Eh ben, dis donc.
Seriez-vous prêt à manger de la viande végétale? D'ailleurs, est-ce que c'est de la viande? Alors, c'est un peu comme le Canada Dry, ça a la couleur de la viande, ça a l'apparence de la viande. Mais je vais vous dire que moi, pour me faire troquer ma côte de bœuf ou ma côtelette d'agneau pour de la viande végétale, il va vraiment falloir se lever tôt, mais ça n'engage que l'aile ou la cuisse.
Ah ouais.
Absolument, dans l'usine Tricatel, absolument. 18h30. Le Front républicain contre le RN signifie-t-il encore quelque chose? Parce que maintenant, le Front républicain est à géométrie variable. Certains disent, du côté de l'AREM, qu'il faut même limite faire un Front républicain contre la NUPES, qui inclut, enfin, qui est surtout dominé par la France insoumise. Front républicain, c'est comme Capri, c'est fini, ou ça a encore une raison d'exister? Vous voulez réagir? Le 0826-300-300. Et les réseaux sociaux.
16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina McDean.
Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.